Chapitre 6e. Ce qu'on lit dans une main. Martin Huma me regardait en souriant. Il reprit. « Oui, mon cher Courville, oui, le pouce de Charles Castanier et celui de l'assassin du banquier et de Mademoiselle Irma Castanier ont les mêmes dimensions. » Je m'écrie alors. « D'où la conclusion facile. L'assassin de M. Castanier et de sa fille est le propre fils du banquier, le propre frère de la fiancée du marquis di Santucci. » À première vue, cela semble indubitable, n'est-ce pas ? Assurément. Mais à seconde vue, mon cher Courville, cela devient moins certain. Comment cela ? Oui, ce serait indéniable si nous possédions non seulement les dimensions du pouce de Charles Castanier, mais aussi les sinuosités, les dessins de ce pouce. Hélas, nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas les avoir. Le gant ne pouvait nous les révéler. Or, devons-nous nous contenter du simple volume de ce pouce pour établir la culpabilité définitive ? Non, évidemment. Ah, si nous avions concordance absolue, dimension et dessin, l'hésitation ne serait même pas possible une seconde. Notre devoir nous obligerait à courir immédiatement après le fils du banquier. Mais encore une fois, nous n'avons qu'une moitié de la solution de cet angoissant problème. Or, une solution, pour être exacte, valable, demande la totalité, l'absolu. Tout en parlant, Martin Huma avait remis dans le tiroir de sa commode le moulage de la main de Charles Castanier. « Cette constatation, mon cher Courville, reprit-il, cette constatation, qui, je dois vous le déclarer, m'a également très grandement ému quand, avant vous, je l'ai faite pour la première fois. Vous avez oublié que nous sommes venus ici, non pas précisément pour mensurer le pouce de Charles Castanier, mais plutôt pour étudier le pouce du marquis Primo di Carmine Santucci. En effet, j'étais saisi et j'oubliais l'empreinte du gant de ce matin. J'y songe, moi, fort heureusement. » Martin Huma pénétra dans son cabinet noir et reparut peu après, tenant en main les deux plaques. Il les posa sur un égouttoir. Puis, il disposa son appareil d'agrandissement, projeta sur le mur un disque lumineux. Ensuite, il prit sur l'égouttoir les plaques, les coupa avec un diamant de vitrier à une certaine dimension et en glissa une, choisie au hasard, dans la rainure du châssis à glissière de son appareil d'agrandissement. Dans cette rainure se trouvait déjà un cliché. « L'empreinte du doigt relevé sur le bloc-notes, me dit-il, j'ai donné la même dimension à celle prise ce matin sur mon gant. Nous allons comparer, étudier, voir. » La lanterne, ou plutôt le disque lumineux, bien au point, ayant toute sa valeur de clarté, de précision, nous montra deux empreintes noires. Dans ces empreintes se détachaient très nettement en blanc les lignes, les sinuosités des pouces. Martin Huma alors se rapprocha de l'écran sur lequel se projetaient les deux clichés. Silencieux, avec son souci habituel, il étudia, compara, analysa les deux empreintes. « Pas la même, » dit-il enfin, « pas la même. »« Ah, vous voyez que ce n'est pas le même pouce qui a fourni ces empreintes ?»« Très clairement, oui. »« Ce n'est pas le même pouce, et cependant, cependant. » De nouveau, il se mit à étudier les empreintes projetées. « Il y a... » fit-il au bout d'un moment d'examen assez long. « Il y a une chose qui me frappe dans ces empreintes. Elles ont comme un air de famille, si je puis m'exprimer ainsi. Cela vous paraît très subtil, mon cher. Cependant, cela est très marqué, pour un œil exercé. À première vue, je n'en disconviens pas. Pour le profane, tous les pouces ressemblent. Et toutes les lignes des doigts sont des lignes de doigts, sans grande différence. En effet, j'avoue qu'en présence de celle-ci, je ne saurais pas faire grande distinction. Pour établir des points de comparaison, voire les différences, il aurait fallu, mon cher Courville, faire comme moi de longues et patientes études sur des milliers de doigts. En ce cas, il en est comme de tout dans la vie. Pour qui n'est pas amateur de chevaux, connaisseur, un cheval est un cheval comme un autre, très juste. Voyez, mon cher, ces lignes longues qui ont l'air de faire le tour de ses pouces. Elle dénote des mains que nous appelons aristocratiques en chiromancie, des mains n'ayant pas l'habitude du travail manuel pénible, des mains de race que le repos, le luxe ont affinées. Vous savez que plus une race se perfectionne, s'affine, plus elle s'allonge, perd de sa carrure, de sa masse, et s'idéalise, pour ainsi dire. Parfaitement. Les membres d'ouvriers, par exemple, sont carrés, trapus, plus forts, moins fins d'attache. Leurs mains rappellent les masses, les marteaux, les instruments de travail. Leurs pieds sont plus lourds, plus gros, de même que les membres des chevaux de trait, des percherons, entre autres, sont loin de la finesse des sabots et des pieds frêles des chevaux de course. Parfait. Eh bien, ces modifications qui se font à la longue et qui demandent des générations ne s'arrêtent pas au général. Elles atteignent le détail, lui aussi, avec la finesse du poignet, la longueur de la main, l'allongement des doigts apparaissent, la ténuité et la continuité des lignes. Nous avons donc sous les yeux deux pouces de race. Il est clair comme le jour, absolument indiscutable, que ces empreintes ont été faites par deux pouces différents, quoique de même race, de même origine, de même famille. Cependant, l'empreinte de droite, c'est-à-dire celle que nous avons prise ce matin, celle du marquis Primo di Carmine Santucci, me paraît bien moins fine, moins aristocrate que celle du bloc-note. Voyez, mon cher, les traits sont moins longs, plus coupés, plus hauts. On dirait qu'il y a un mélange de deux races, la race aristocratique et la race plébéienne. L'étape de perfectionnement n'est pas accomplie. Il n'y a pas d'amalgame complet, mais union, simplement. J'ai dans mes dossiers des empreintes de ce genre. Des doigts de bâtard, par exemple, fils de grand seigneur et d'une laveuse. Doigts de fils légitime également, de noblesse indiscutable, dont le père, pour redorer un blason éteint, a épousé la fille d'un quelconque marchand enrichi. En somme, l'empreinte de l'assassin est celle d'un gentilhomme, et celle du marquis Santucci, d'un demi-plébéien. Mon cher Numa, lui dis-je, nous sommes heureusement seuls dans cet atelier. Personne autre que moi, qui vous connaît, vous apprécie et foi en vous, n'entend vos paroles, car vous eussiez provoqué des cris d'incrédulité, des haussements d'épaules. On m'eût traité de sorcier, de fou, ou, ce qui est plus à la mode, de bluffeur, de fumiste. Mais tout ce que je vous dis repose sur des données certaines. Pour acquérir cette connaissance, il faut un long et patient travail. C'est une science. Des plus difficiles, des plus utiles aussi. Peut-être parmi ceux qui, en vous écoutant, riraient de vos théories, il s'en trouverait bon nombre qui s'empresseraient d'avoir recours à ce dont ils se moquaient tout d'abord, si le malheur, le crime frappait à leur porte. « Peut-être, » fit Martin Numa d'un ton sombre, « peut-être. » Il se remit à étudier les empreintes de doigts, changea de place les clichés, les plaça l'un sur l'autre, se livra de nouvelles comparaisons, puis rallumant les ampoules électriques, il éteignit sa lampe d'agrandissement. « En voilà assez, » dit-il. « Nous en savons suffisamment. Le problème se pose de nouveau avec un énoncé de plus en plus compliqué. Il faudrait pouvoir avoir une empreinte du pouce de Charles Castanier. Mon cher, vous demandez l'impossible, donc laissons cela de côté. Vous oubliez qu'à défaut de main, nous avons un bout de pied. La rognure de cuir verni ? Parfaitement. Reste à trouver celui qui possède une bottine détériorée par le pied du bureau du banquier Castanier. » Puis, brusquement, « Bon. » « Maintenant, ne perdons pas de temps, nous n'avons plus rien à faire ici. Et d'ailleurs, d'autres événements nous attendent. Allons-nous-en. Partons. »